Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Les séries de la NFL se poursuivent et les adultes entrent dans la pièce. En effet, Baltimore et San Francisco seront en action ce week-end pour les demi-finales de conférence. Des jeunes carrières font leur place au soleil, pendant que d'autres prouvent leur valeur. La belle histoire des Lions se poursuit et les partisans de Détroit en pleurent de joie. Avec des fins de saison catastrophiques, plusieurs équipes auront une longue saison morte devant elles. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar et de savantes analyses mariées avec beaucoup d'émotion, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La Zone Payante. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de trouver l'expert du Journal de Montréal et de Québec en matière de football et tant autre chose. On parle à Stéphane, on parle bien de Stéphane Cadorette, que vous lisez, j'espère, régulièrement, parce qu'il écrit pas juste sur le football, Steph. Là. C'est un expert en tout.
On écrit sur plein d'affaires, mais écoute, là, quand je regarde ça, là, je me dis, je devrais peut-être pas écrire sur trop d'affaires parce que la semaine passée, j'ai un petit 3 en 6.
Non.
Je suis pas de ton côté, je me souviens plus.
Je suis 4 en 6, mais il reste que c'était.
C'est les Lions, hein, toi, que t'as eu, que
ouais,
j'ai pas eu.
Exact.
Ouais.
Reste que les surprises qu'on a eues cette semaine, là, c'était quand même, là. Écoute, il aurait pu. Les gens bien, avec une expérience bien aiguisée, auraient dû peut-être voir que les Cowboys allaient avoir une certaine nervosité, peut-être un manque de préparation, ou peut-être un passé trop lourd qui les accompagne pour partir en confiance en série. Mais c'est vrai que le spread était tellement élevé, en plus, qu'on s'est tous fait embarquer en se disant, la belle histoire de Jordan Love va s'arrêter parce que il arrive à Dallas, puis Dallas joue bien à maison.
Exact. Puis, tu sais, il y avait les Eagles aussi qui ont continué un peu de s'accrocher à l'idée que, ouais, cette équipe-là était 10-1 il n'y a pas si longtemps. Là, on aurait dû venir voir la catastrophe, honnêtement. Là, ça allait tout croche. Fait que, tu sais, c'est ces deux-là qui nous ont un peu fourrés, en bon français. Mais
parlons,
on est là pour surprendre cette semaine.
Mais on parlera des matchs cette semaine, mais parlons un peu de ceux qui s'en vont. Là. On l'a effleuré, là, Dallas, Philadelphie.
Faisons l'autopsie.
Bon, mais commençons par Pittsburgh rapidement. Je sais que Mike Tomlin est sorti du podium un peu fru quand on lui a posé des questions sur son contrat, puis il a pas l'air à vouloir en parler. Puis il y a eu même, toi-même, pendant la saison, tu sais, t'as... Sans là dire que c'est sa dernière saison, mais il y a de quoi qui va pas à Pittsburgh. On sent que Mike Tomlin réfléchit, peut-être même la direction réfléchit à Mike Tomlin. Puis là, il y a quand même, on dit qu'il a annoncé à ses joueurs qu'il allait rester. Comment tu vois la situation à Pittsburgh rapidement? Parce qu'après ça, on a beaucoup de stock sur les autres équipes.
Ben, en fait, il a dit à ses joueurs, j'ai l'intention de rester. C'est une petite nuance, mais est-ce que la direction, elle, a l'intention qu'il reste? Je pense que oui. Je pense que ça va être le statu quo à Pittsburgh, mais à ce stade-là, on ne le sait plus. Ce qui arrive, c'est que traditionnellement, Pittsburgh ont toujours renouvelé leurs entraîneurs, prolongé leur contrat avec 2 ans à faire. Là, Mike Tomlin, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat, donc c'est pas une situation commune à Pittsburgh. Fait que de là, les questions, puis c'est ça la question qui s'est fait poser à la toute fin de son point de presse. On sait qu'il te reste 1 an à ton contrat, puis pouf, il est parti en coup de vent. La question était légitime, honnêtement, parce que ça n'arrive pas à Pittsburgh.
C'est pas comme si le journaliste avait essayé de le coincer. Ça prouve quand même que something is boiling.
Il y a un petit malaise, là. Il y a une réflexion, disons-le comme ça, que ce soit une réflexion de Tomlin ou plus du côté des Steelers, il y a quelque chose là. Fait que tu sais, peut-être que il va avoir eu juste de la fumée puis pas de feu. Tomlin, tu sais, ça reste un très bon entraîneur. On remet pas en question ses compétences, mais des fois, l'usure d'un long mariage, ça fait que tu veux juste du changement là, puis tu te demandes si le message passe.
Bon, ok, là, on va y aller où ça brasse pour vrai là. Dallas, Jerry Lynn cette semaine, puis pour la saison morte. Il va-tu avoir un changement d'entraîneur? Écoute, c'est à se demander même si ils vont pas amener quelqu'un pour compétitionner avec Dak là, tellement que le lendemain de veille a été difficile.
Ouais, personne s'attendait à ça. Jerry Jones y a été clair dans ses commentaires d'après-midi.
48-16 pour commencer le quatrième quart.
Ah oui, tu sais, c'est ça. Là, on voit le pointage final. Ceux qui n'ont pas regardé se disent comment ça, tout le monde panique, ça n'a pas été si pire que ça, mais ça a été un quatrième quart un peu ridicule. Là, les Packers ont levé le pied un peu. Mais Dallas en ont mangé toute une. C'est une sincère volée. McCarthy, écoute, c'est tout le temps la même question avec lui. Ça fait 3 ans qu'on se répète. 3 années de suite de 12 victoires, 5 défaites. Ça, c'est pas arrivé aux Cowboys depuis les années 90. Fait qu'il faut quand même respecter ça. Mais t'arrives en série, puis à chaque fois, le club a l'air mal préparé. Tu sais, l'année passée, c'est quoi? L'attaque avait fait 12 points, je pense. Là, cette année, ben 2 interceptions de Dak encore, 2-5 en série, 7 interceptions Dak Prescott. Là. T'sais, ça commence à être un problème. Autant c'est un bon carrière en saison régulière, on n'a rien à dire. T'sais, c'est probablement un top 8, top 10 Dak Prescott en saison. Quand t'arrives les séries, ça devient difficile. Puis là, la défense, c'est vraiment, mais vraiment pas présenté. Il y a des questions à se poser de ce côté-là aussi. Tu sais, Mike McCarthy, mais qu'est-ce que tu fais aussi avec Dan Quinn, qui avait beaucoup de succès, mais là, la fin
lui,
de saison...
Il était en train de penser à sa prochaine job de coach? Ça aussi, c'est le piège des gars qui sont en demande. Là.
C'est une affaire qui revient à chaque année. On se dit, est-ce que la NFL devrait retarder le processus d'entrevue après les séries? Est-ce que Dan Quinn avait un petit peu la tête à Seattle, puis je sais pas trop où qui est allé en entrevue? Tu sais, c'est des questions qui se posent. Mais en tout cas, Dallas était clairement pas prêt pour ce match-là. Puis ça, ça revient à l'entraîneur. Tu sais, McCarthy a dit lui-même une phrase que j'ai trouvée révélatrice. Ils nous ont vraiment surpris. Pourquoi t'es surpris à ce stade-là? C'est ça, moi, que je trouve inquiétant un peu là, dans la démarche des Cowboys. Tu peux, écoute, là, te faire surprendre sur un jeu ou deux, mais ils se font fait surprendre du début à la fin de la game. Ça m'avait tout l'air d'un club très mal préparé. Fait que là, écoute.
Ben là, c'est la question.
On va inviter Bill Belichick.
Ouais, là? Mais là, moi, là, c'est là que je me dis que c'est la saison des niaiseries, puis des rumeurs infinies, puis pas vérifiées, puis des inches qui commencent. Là.
J'ai hâte de voir. Je suis pas convaincu que c'est juste du niaisage.
Ah oui?
Parce que il y a vraiment une relation entre Belichick et Jones. Semble-t-il qu'au fil des ans, il y a un grand respect entre les deux qui s'est tissé. Ils se sont croisés dans des événements de la Ligue, des rencontres de DG puis de propriétaires, puis etc. Fait que je le sais pas. Mais il y a le facteur Belichick est disponible. Ça arrive jamais, un coach disponible là, avec un CV comme ça. Mais il y a la question des dernières saisons aussi. Ben, est-ce que Belichick, c'est le Belichick qui a gagné 6 Super Bowls ou t'as le Belichick qui a clairement pas fonctionné à Foxborough depuis 3-4 ans?
OK. On va suivre ça, mais faut continuer un peu avec Philadelphie. Le Philadelphie, ça, c'est une équipe, là. Écoute, moi, on connaît tous l'affection que Mario Dumont a pour ses Eagles. On connaît tous l'affection que tous les partisans des Eagles ont pour leur équipe, mais comment ils revirent vite de bord quand ils sont frus?
Ouais. L'amour-haine des partisans, disons. Là, comme
c'est ça. Je pense que... Puis moi, Mario, il m'avait prévu, il m'a dit, je disais non, mais les Eagles vont quand même rebondir. Là. Je dis, le Tampa Bay, c'est pas une équipe. Là. Ils se sont frayés une place à force de battre Caroline, mais il me dit non, ils vont perdre 30-3. Écoute, ça finit quoi, 36-9? Hein?
Il t'avait vraiment dit ça?
Oui. Wow. Et que je pense que les partisans des Eagles sont très lucides sur le cancer qui est en train de se propager à l'intérieur de leur équipe. On a vu Goddard s'ostiner avec Jalen Hurts. On a vu A.J. Brown, puis lui aussi en chicane avec Jalen Hurts, même si c'est supposément des amis depuis toujours. Après ça, même pendant la saison, on a vu Jason Kelce m'emmener crier à Jalen Hurts. Fait que là, est-ce que Jalen Hurts s'est développé une espèce de personnalité là avec son nouveau contrat toxique? Est-ce que c'est les entraîneurs? Là, apparemment que des entraîneurs font rire d'eux. Fait que, écoute, débroussaille-nous ça parce que c'est un épique collapse. De passer de 10-1 une sortie comme ça dans les séries, qu'est-ce qui s'est passé à Philadelphie?
Il y a eu une cassure, puis le problème, c'est que c'est très dur de mettre le doigt dessus. Tu sais, tu le vois, t'as beau lire à gauche, à droite, t'as beau essayer de regarder toutes sortes de vidéos. Il y a plein de théories. Est-ce que c'est Sirianni le problème? Est-ce que c'est Hurts? Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un an, Hurts perdait au Super Bowl, puis là, tout le monde le louangeait en disant, ben, on voit quand même que c'est un vrai leader, il est très apprécié, ce gars-là va revenir. Là, tout à coup, tout le monde se pose des questions sur lui. Je trouve ça drôle ce qui se passe à Philadelphie depuis quelques années. Tu sais, rappelle-toi, ça avait fait pareil avec Carson Wentz. Il avait eu une année pratiquement MVP. Il s'est blessé, il n'a pas pu être des séries. Là, Nick Foles gagne le Super Bowl. Après ça, Wentz revient, puis là, wow, plus personne n'aime Wentz. Puis c'est un ci, c'est un ça, tout le monde se chicane avec. Tout le monde a la mèche courte à Philadelphie là, depuis quelques années. Je pense pas que le problème, c'est Hurts. Fort probablement qu'il a joué beaucoup plus blessé cette année qu'il a bien voulu le dire. Ça a peut-être pas aidé l'équipe. Mais Sirianni, écoute, quand tu as une équipe de 10 et 1 entre les mains, c'est certainement une bonne équipe. Ça peut pas être juste de la chance. Il s'est passé quelque chose à partir de ce moment-là qu'on saura peut-être dans les prochains mois. Mais pour l'instant, Colin, Jean-Nic, j'aimerais ça te dire, c'est évident, il est arrivé ci, il est arrivé ça. C'est un foutu mystère, les Eagles. Je comprends rien pourquoi la défense en fin de saison qui a très, très mal joué. Tu sais, des gars l'année passée qui étaient très bons, là, je pense, exemple, au demi de coin, Darius Slay puis James Bradbury. Très ordinaire cette année. Là. Ça n'a pas été le duo que c'était l'année passée. Il y a des gars qui ont sous-performé. Le front défensif qu'on a tant louangé, là, la profondeur puis le talent. En début de saison, il était là, mais en fin de saison, on voyait plus Jalen Carter, la recrue. Jordan Davis, qui en fait très peu.
Mais là, on revient à Sirianni. De... Mettons là, qu'on revient à Sirianni. Là. C'est un gars que sa job est en danger. Là. Il... Écoute, il est vraiment... là, c'est fire, Sirianni. Écoute, c'est sa troisième année. Les trois ans, il a amené les Eagles en série. Puis il perdrait sa job après avoir amené le Super Bowl. Parce que c'est pas comme un petit peu là, le vent de face qu'il est en train d'affronter.
Non, ça me semble insensé. Puis ce que je lisais avant qu'on enregistre, puis il faut dire pour le bénéfice des gens, tu sais, il arrive des affaires, des fois on enregistre, on peut pas attendre indéfiniment, puis là, il se passe des nouvelles dans la journée. Fait qu'on peut aussi bien apprendre aujourd'hui ou demain que c'est fini, parce qu'il rencontrait aujourd'hui même, probablement qu'il attendait que notre enregistrement finisse, mais il rencontrait le grand patron Jeffrey Lurie, le propriétaire Nick Sirianni aujourd'hui. On dit que c'est une rencontre de routine qui a lieu à chaque fin de saison, mais il y a trois ans, c'était aussi une rencontre de routine quand Doug Peterson a été mis dehors. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, on va demander à Sirianni des changements, clairement dans son personnel d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il va proposer? C'est probablement là que ça va
être. Il en a déjà fait. Parce que,
oui, mais en défense, les changements n'ont pas été fructueux. Tu sais, ils ont perdu leurs deux coordonnateurs l'an passé, les Eagles, puis ça a fait très mal.
C'est leur coordonnateur offensif là que les... Les journalistes ont posé la question à un des joueurs, là, est-ce que quand votre coordonnateur offensif parle, vous riez, puis ils ont comme ri, tu sais, c'est, il y a une espèce de bizarre d'ambiance, de
malaise,
je sais pas quoi, là.
Ouais, il y a un malaise général, fait que c'est ça, la rencontre a lieu, après ça, ben, on peut se dire, juste une rencontre de routine, on n'en fait pas de cas, il y a ça chaque année, je comprends. Mais la dernière fois avec le dernier coach, ben, ça a viré que, écoute, j'aime pas ton plan de relance, merci, bonsoir.
OK, finissons avec les Dolphins. Finissons avec les Dolphins. Ben les Dolphins qui, je sais, là, je veux pas être ironique ou quoi que ce soit, mais on le savait, là, tu sais. Puis on peut faire plein d'excuses. Il y avait plein d'excuses pour perdre à Kansas City. Il y avait, je pense, 19 gars sur la liste des blessés avant le match.
Ça n'a pas aidé.
Il y a eu beaucoup de joueurs importants sur... Il y a d'autres équipes qui en ont eu, mais les Dolphins, des joueurs très importants qui sont finis pour l'année. Ils ont eu une pratique, seulement une pratique dans un short week pour aller jouer leur premier match de série. Tout le monde était sur les genoux alors que Kansas City était reposé, était à la maison, avait eu le temps de pratiquer, avait pas voyagé. Fait que c'est sûr que les chances des Dolphins étaient très minces. Par contre, tu sais, la prestation qu'ils ont donnée était pas surprenante à sachant ça. Tu sais, ils ont déçu même. Là. Fait que est-ce que le bilan d'après-saison doit se faire sur les 3-4 dernières semaines qui ont été pour eux aussi un désastre à Miami? Ou se dire, mais il y a eu encore de la croissance cette année. Tua a joué tous les matchs. Il y a eu des belles choses. On a battu des équipes faibles, mais on les a battues. Puis avec un petit peu plus de chance, on aurait eu un contexte plus favorable, puis on aurait peut-être pu faire du chemin en série. Reste qu'aujourd'hui, on se réveille, les Dolphins sont l'équipe qui, ça fait le plus longtemps depuis que ça fait plus de 20 ans qu'ils ont gagné un match en série. Fait que toi, comment tu vois l'entre-saison des Dolphins, surtout sachant que Tua est un enjeu puis qu'ils ont beaucoup de joueurs à signer puis un plafond salarial dur à gérer.
Ouais, je pense qu'ils sont quoi, 40 millions au-dessus du cap actuellement?
C'est 40 ça? Millions, oui.
Puis t'as des agents libres, tu sais, t'en parlais, là, il y a le contrat de Tua, lui, il est pas agent libre, mais faut commencer à renégocier. Après ça, des agents libres, là, t'as Christian Wilkins, Jerome Baker, Andrew Van Ginkle, Robert Hunt, Connor Williams, je pense, à la ligne à l'attaque. C'est des gros noms importants. Puis le problème, c'est que je pense pas qu'il faut dynamiter le club à Miami non plus. Mais il y a clairement un aspect physique qui manque à cette équipe-là. T'sais, c'est une bonne équipe, Miami. Moi, on s'est destiné en masse pour s'amuser cette année, mais je continue de penser que les Dolphins, c'est une bonne équipe, mais il manque quelque chose. Les défaites répétées dans le froid, là, c'est pas là des genres de scénarios qu'on s'invente. Ça arrive pour vrai. C'est un club qui manque l'aspect physique, je trouve. T'sais, il y a beaucoup de vitesse à Miami. C'est super en septembre. C'est super dans des dômes quand t'es au chaud. Mais là, honnêtement, ça devient un vrai problème année après année.
Mais on veut pas se fier sur la game de Kansas City. Ils ont pas pratiqué.
Mais c'est pas juste celle-là. C'est ça le problème. Ça se répète. Écoute.
Ils ont eu des bonnes performances à Buffalo. Je sais. Je suis assez d'accord. Je suis pas sûr que c'est ça le problème. Mais je suis assez d'accord qu'il y a un aspect là, qui est insaisissable sur le fait que c'est si difficile de jouer.
J'entendais McDaniel cette semaine disait « Ouais, il y a rien qui est off the table. Je pourrais laisser aller le play calling offensif. » Pour moi, c'est loin d'être un problème. Là. Tu penses qu'il laisse aller ça?
Oui. Non, c'est sûr. Mais non, mais c'est que les Dolphins, avec l'émotion, puis l'espèce d'attaque là, basée sur la vitesse, a fini par être... deviner là. On n'a pas beaucoup varié, on n'a pas changé la façon de faire. Puis je pense que Mike McDaniel aurait avantage à s'entourer d'un coordonnateur offensif puis qui cale les jeux. Il y en a un là, mais qui appelle les jeux. C'est beaucoup de responsabilité.
Je pense qu'il est bon dans ce rôle-là.
Préparer le plan de match là.
Il abandonne peut-être trop vite puis trop fréquemment.
Le jeu au sol. Ça, c'est ça.
Ça, c'est le défaut là, à Miami. Là. Mais
ils doivent avoir une raison. Là, parce que tout le monde dit ça puis ils font pareil. Ils doivent avoir une raison là-dessus parce que, tu sais... Je sais pas, mais... Ils doivent avoir une raison. C'est impossible. Tout le monde dit, bon, mais là, ils vont courir. Ils courent pas. Pourquoi?
Mais il y a des coachs historiquement qui sont comme ça un peu, tu sais.
Non, mais il vient de San Francisco. Lui, il va pas me dire que la course n'était pas importante à San Francisco à son époque.
Non, ça c'est clair. Non, ça c'est l'influence de Shanahan doit peser plus lourd que ça c'est sûr. En tout cas, c'est un problème pour moi à Miami. Mais toi, je sais pas comment tu le vois, mais je pense pas non plus qu'il faut arriver dans cette équipe-là et dire OK, on repart tout à zéro, on recommence, ça marche pas. Puis là, t'as la question de Tua, là, aussi.
Moi, je te l'ai dit la dernière fois.
On s'étirera pas là-dessus 2 ans parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines, mais c'est... Dans les dernières semaines, Tua a clairement pas élevé l'équipe non plus. Fait que je pense qu'ils ont maximisé son potentiel cette année. Puis ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas le feeling qu'il va s'améliorer. Je pense que ce qu'on a vu de Tua, c'est ce qu'on va voir de Tua dans les prochaines années. Mais dans les gros matchs, j'ai pas aimé nécessairement ce que j'ai vu. Fait que, à quel point tu veux te commettre? Puis là, il y a toujours la fameuse question. Ouais, mais qui est disponible et meilleur ailleurs?
Il n'y en a pas.
C'est ça qui est pas évident.
Je regarde
c'est
les camps, tu sais, je regarde les camps arrière, mettons, qui sont encore en série dans la nationale, là. Il y en a-tu un qui est vraiment meilleur que toi là-dedans?
Ben là, ça dépend de l'opinion que tu as de Brock Purdy, exemple, dans nationale, tu parles. Là.
Ouais. Il y en a-tu un là, qui est clairement meilleur que toi? Là?
Ben là, tu sais, en ce moment, Jordan Love joue comme un dieu. Est-ce que Jordan Love va jouer toujours comme ça? Ça reste à voir. Baker Mayfield, non. Tu sais, c'est pas parce que Baker Mayfield joue pas bien, mais est-ce que tu le veux plutôt que toi? Non. Même chose avec Jared Goff. Jared Goff joue très bien. Mais si tu te dis, hey, on a la possibilité de l'échanger un pour un, non. Non, c'est ça. C'est pas évident. C'est bien beau, là, dire, ah, ça nous prend un carrière d'élite, là. Il nous faut, là. Il est pas élite. Il est très bon, mais il est pas élite. Le fameux terme qui revient tout le temps. Élite. Il y en a combien des carrières vraiment, vraiment, vraiment élites?
C'est juste que quand il te coûte 3 ou 11 ou 12 millions, c'est ta masse salariale, t'es prêt à le vivre, là. Mais là, tu sais.
Ouais.
Après ça, 15 millions, 50, c'est autre chose. OK, hey, on se laisse. On va se laisser là-dessus parce que là, c'est quand même, veux pas ceux qui sont éliminés. On n'en parle plus. On va parler de ceux qui sont encore là. Puis c'est ce qu'on va faire après la pause. Bougez pas.